Chapitre 15. Tauquevlan était toujours dans la salle à manger pendant les repas, et aussi un des grands chiens de chasse de M. de Gueldre. Un matin, Vlan, voulant s'emparer d'un fromage posé sur une table de service, souleva sournoisement du bout de son nez noir et humide le globe de cristal qui roula à terre avec fracas. Le marquis sauta en l'air et s'écria en colère « Ils sont odieux, ces chiens-là » Liane, qui habituellement était d'humeur très facile, s'emporta, et son mari, étonné, lui fit remarquer qu'elle était aujourd'hui bien nerveuse. Elle dit doucement « C'est vrai, il faut me pardonner. Depuis quelque temps, je ne vais pas très bien. Qu'est-ce que vous avez ?»« Je ne sais pas, mais j'ai quelque chose, bien sûr. » M. de Gueldre répondit, moqueur, « Comme explication, c'est vague. » Après le déjeuner, la marquise sortit à pied emmenant ses chiens et alla chez M. de Mons, qui demeurait rue de la Faisanderie dans un joli hôtel situé au milieu d'un jardin. Il fut stupéfait de voir entrer Liane et courut au-devant d'elle, demandant « Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose ?»« Non, je viens vous prier de me rendre un service. Lequel ?»« C'est de prendre mes chiens. J'ai eu ce matin à leur sujet une petite discussion avec Henri, qui les trouve assommants, et je ne veux pas que cela se renouvelle. Voulez-vous me faire le plaisir de les prendre et de les garder toujours, ou si, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouviez pas les conserver, de les faire tuer devant vous ?»« Mais, » dit Bernard tout surpris, « comment est-il possible que vous consentiez à vous séparer de ces deux chiens qui ne vous quittent jamais ?»« Je sais qu'avec vous, ils seront plus heureux encore qu'avec moi. Vous m'avez dit un jour que tous vos domestiques aimaient les bêtes. Vous avez un grand jardin. Vous vous promenez au bois, à pied ou à cheval, pendant la moitié de la journée. L'été, vous allez à la campagne. Oui, mais ils ne vous verront plus. Bon, ils me rencontreront comme ils vous rencontraient auparavant, et d'ailleurs, ils m'oublieront vite. » Elle aperçut Toc qui venait de se coucher sur un divan, et elle voulut le faire descendre. Le chien, étendu sur le ventre, les pattes allongées, la regarda en remuant la queue, mais ne bougea pas. Elle se levait pour le prendre par son collier. M. de Mons s'y opposa. « Permettez, à présent, il est ici chez lui. »« C'est vrai, » dit la marquise en souriant, et regardant autour d'elle, elle ajouta. « C'est très joli chez lui. Vous trouvez ? Voulez-vous voir ma petite maison ? J'ai des tableaux qui vous plairont. » Elle se leva, prête à le suivre. Les deux chiens, couchés à présent côte à côte, la regardèrent sans faire un mouvement. « Vraiment, » dit la marquise, « on dirait qu'ils ont compris ce que je vous ai dit. » Et gaiement, « Savez-vous ce qui sera drôle ? Quand ces pauvres vilaines bêtes auront été vues avec vous, elles vont devenir deux types d'élégance. Tous les petits jeunes gens qui cherchent à vous imiter, beaucoup de cocottes et quelques femmes du monde, vont s'ingénier et remuer toute la terre pour trouver des chiens pareils à ceux-là. » Elle éclata d'un rire jeune et frais. « Et pour en trouver d'aussi laids, il faudra trimer ferme. C'est égal. Je parie que dans 2 ou 3 ans, Paris sera couvert de grands tocs et de gros vlans. » Et distraite, elle ajouta, « Ça m'aurait amusé de voir ça. » « Comment ça, ça vous aurait amusé ?» interrogea M. de Mons. « Pourquoi parlez-vous comme si vous ne deviez pas le voir ?» Elle répondit, un peu interdite, « Comment ai-je parlé ?» Bernard secoua la tête et tristement, « Vous avez parlé comme quelqu'un qui a l'idée de mourir. » Craignant qu'il ne devinât la vérité, elle protesta bruyamment. « L'idée ? Ah mais non ! La crainte, oui. Notez que je ne dis pas la peur. Vous avez bien vu qu'hier j'ai dit au docteur que je me sens malade. Et puis vous savez, moi, j'ai beaucoup étudié les mains, les écritures et les horoscopes. Eh bien, dans ma main, dans mon écriture et dans mon horoscope, je vois se répéter les mêmes signes. Qu'est-ce qu'ils disent, ces signes ? Ils se contredisent sur quelques points, mais il en est un sur lequel ils sont tous d'accord. Et c'est « vie courte ». Vous croyez à toutes ces bêtises ? Elle le menaça du doigt. Vous y croyez encore plus que moi, vous. Vous souvenez-vous qu'un soir, à Deauville, vous m'avez tous montré vos mains, oui ? J'ai bien vu que vous en saviez là-dessus tout aussi long que moi. J'ai vu aussi votre main, qui est la plus belle, la plus droite, la plus honnête que j'ai jamais regardée. Et vous avez une admirable ligne de vie, vous. » Elle acheva en riant. « Aussi, je suis tranquille sur le sort de Toc et de Vlan. Vous les enterrerez. Maintenant, montrez-moi vos tableaux. » Quand elle eut visité les salons, la salle à manger et la bibliothèque, Liane, voyant que M. de Mons rentrait dans le cabinet de travail où il l'avait reçu, demanda « Je voudrais voir aussi votre chambre. » Il s'inclina et, ouvrant une porte, introduisit la marquise dans une grande pièce tendue, mur et plafond, en toile à voile. Un lit très étroit et très bas, des armes, une chasse de Lewis Brown, une petite danseuse de forain, au pastel, faisant bouffer sa jupe bleuâtre derrière un portant, des jockeys de Degas, un chant de Coquelicot de Monet, un faune de Clodion, une femme nue de Rodin, un éventail de Guérard. Sur un grand bureau Louis XVI, dans un merveilleux petit cadre ancien, une photographie, celle de Liane, photographie instantanée faite 2 ans plus tôt au tir au pigeon, patinant, les mains dans un manchon, le nez au vent, tout emmitouflé de fourrure avec au coin cette dédicace à Monsieur de Mons, le bon garçon. Ah ! S'écria Madame de Gueldre, c'est gentil d'avoir mis le bon garçon dans ce si joli cadre. Et un peu embarrassée de se voir trôner ainsi dans la chambre de Bernard, elle demanda, ne sachant que dire, « Vous n'avez pas d'autres photographies ?»« Non, je n'excelle là. » En questionnant, elle regardait autour de la grande pièce. Tout à coup, elle rougit et resta les yeux fixés sur un objet qu'elle venait d'apercevoir. Au-dessus du lit, sous un Christ de vieil ivoire, se détachait un bibelot ancien, à moitié cadre, à moitié bijou, renfermant une petite fleur séchée. Et cette pauvre fleur palote, cette humble petite fleur sans nom, Liane, la reconnaissait bien. C'était celle que Bernard lui avait demandée le jour où il avait dit qu'il l'aimait. Il vit ce qu'elle regardait et d'un ton bourru. « Oui, c'est bête, c'est vieux jeu, c'est romance. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Vous avez raison. » Elle tourna vers lui son visage tout couvert de larmes, et lui tendant les 2 mains, elle balbutia. « Vous m'aimiez bien, vous ?» Il se pencha, et posant son front sur les mains de Liane, il dit d'une voix profonde qui la fit frissonner toute. « Si au moins je vous savais heureuse, » elle pensa, désespérée, « pourquoi n'est-ce pas lui que j'aime ?» Et aussitôt, une peur la prit qu'il ne sut qui elle aimait. Elle eut honte et dit en retirant doucement ses mains, « Il faut que je m'en aille.